Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission bimensuelle diffusée sur Twitch, Chronique Disney, le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, en intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Eh bien, il était une fois une princesse.
Et cette princesse, c'était...
Oh, on dirait un conte de fées.
To all who come to this happy place, welcome.
Et voici le Muppet Show.
Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert.
Vers l'infini et au-delà.
Je suis ton père.
That's his name. Henry Jones Jr.
Like...
Mais c'est une armée.
Nous, on a un Hulk.
Our only hope that we never lose sight of one thing. That was all started by a mouse.
On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on entend la maison, elle est pas belle la vie.
Chronique Disney, le live.
Et bonjour à tous, donc merci de nous avoir rejoints ce soir pour un live un petit peu particulier. Alors si je vous dis saga, tout de suite certains vont penser à Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, ou comme moi au Seigneur des Anneaux. Mais ce soir, nous allons revenir sur ce que l'on considère comme la toute première franchise de la pop culture, et dont le premier film est sorti sur les écrans, enfin et dont le dernier plutôt film est sorti sur les écrans, il y a 2 semaines, j'ai nommé La Planète des Singes. Je suis Ludivine, je serai votre présentatrice ce soir, et avec moi pour en parler, j'accueille 3 experts et ou fans de l'univers. Nous avons Nicolas Allard, auteur de l'excellent livre consacré à la saga La Planète des Singes, du roman aux écrans La Fabuleuse Histoire, sorti au mois d'avril aux éditions Pix & Love. Merci Nicolas de nous faire l'honneur de votre présence. Et également, 2 membres de l'équipe Chronique Disney, principalement connus chez nous pour leur amour de Star Wars, mais également grands fans de l'univers. Créé par Pierre Boulle, j'ai nommé Franck Armand Zuniga, qui n'est autre que le créateur de notre cher site Chronique Disney.
Bonjour.
Et Renaud Bonnet, qui est l'un de nos modérateurs sur le forum de Chronique Disney, Disney Central Plaza. Merci à vous d'être là.
Bonjour.
Avec grand
Alors,
plaisir.
Merci. Alors, nous avons un programme qui est un petit peu dense, je vous avoue, au cours duquel on va essayer de revenir sur les différents aspects de la franchise. Mais je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez interagir à tout moment dans le chat et poser des questions à nos experts. Donc, avant de débuter sur le cœur de notre sujet, Nicolas Allard, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes passionné de fantasy et de science-fiction, agrégé de lettres modernes, et nos lecteurs et auditeurs les plus fidèles vont se souvenir de vous. Avec certainement le podcast qui était consacré à Disney et Jules Verne, sorti fin 2021 et auquel vous aviez pris part à l'occasion de la sortie de votre livre « Les mondes extraordinaires de Jules Verne » aux éditions Armand Collin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on commence à parler de la planète des singes ?
Non, merci Ludivine pour cette présentation et puis merci à Chronique Disney de consacrer cette soirée et cette émission spéciale à la planète des singes. C'est une saga qui est fascinante et qui mérite, je pense, qu'on lui consacre justement une belle émission. Et je suis très heureux effectivement de revenir dans Chronique Disney après avoir parlé longuement de Jules Verne la dernière fois. C'était un sujet qui m'avait passionné et là je suis très content également d'aborder ce sujet qui est très différent de celui auquel j'avais participé la dernière fois, mais qui a également des liens avec celui-ci, comme on le verra.
Effectivement, c'est noté. donc, on va commencer à parler tout de suite. Donc dans une première partie, on va parler de Pierre Boulle et de ses influences. Donc, si on parle de la planète des singes, on va nécessairement penser à la franchise cinématographique. Qui fait l'actualité cinématographique aujourd'hui. Mais La Planète des Singes, c'est avant tout le roman paru en 1963 d'un auteur français, Cocorico, qui s'appelle Pierre Boulle et qui est considéré comme, on va y revenir, comme l'un des héritiers de Jules Verne. On remet l'église au milieu du village. Du coup, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Pierre Boulle, qui il était, quelles étaient ses influences ? Je vous laisse
oui.
la main.
Alors, Pierre Boulle, c'est un écrivain français qui est né en 1912 à Avignon. Il a un parcours assez particulier parce qu'à l'origine, ce n'est pas justement quelqu'un qui était destiné à être un écrivain connu et reconnu. Il a fait des études scientifiques, il était ingénieur. Il est parti assez jeune travailler en Asie et plus particulièrement en Malaisie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était quelqu'un qui était très engagé. Il a décidé de s'engager dans la libération de la France, même si donc il était en Asie. Et cette Seconde Guerre mondiale, ça a été une sorte de déclic pour lui, parce que depuis qu'il était enfant, il était passionné de littérature. C'est son père qui lui avait donné le goût des livres. Et donc, au fond de lui-même, il avait toujours eu l'envie, un jour ou l'autre, de donner plus d'importance dans sa vie personnelle à cette passion. Et donc, la Seconde Guerre mondiale, ça a été une sorte de déclencheur. Il a décidé finalement de changer radicalement de vie et de devenir du jour au lendemain écrivain. Donc, il a tout abandonné alors qu'il avait une situation assez stable, assez confortable pour devenir écrivain. Et ça a été un coup de maître parce qu'en fait, très vite, il va être connu et reconnu comme un écrivain de talent, un écrivain populaire également. Son roman « Le pont de la rivière Kouai » va être adapté au cinéma. Et c'est un succès considérable, ce qui fait qu'il va vraiment avoir le sentiment qu'il a fait le bon choix et qu'il peut continuer justement dans cette carrière d'écrivain. Et puis donc, il écrira « La planète des singes » quelques années plus tard. C'est un roman qui est publié en janvier 1963 et qui est un roman donc particulier parce que il relève maintenant de la littérature de science-fiction, alors que Pierre Boulle, lui, le voyait plus comme une sorte de conte philosophique. Il ne se considérait pas lui-même, d'ailleurs, comme un écrivain de science-fiction, alors même qu'il a légué à la postérité un certain nombre de textes, que ce soit des romans ou des nouvelles, qui relèvent du genre de la science-fiction. Voilà, donc Pierre Boulle, c'est un écrivain qui a été assez prolifique, un écrivain tardif, hein, puisqu'il a commencé l'écriture dans la seconde partie de sa vie, mais il ne l'a jamais ensuite abandonné. Et c'est un écrivain qui, finalement, est assez peu lu et étudié en France, je pense notamment à l'université, en classe préparatoire, dans l'enseignement supérieur, alors que lorsque l'on va à l'étranger, notamment aux États-Unis, du fait du succès du Pont de la rivière Kouai et de la planète des singes, il est considéré comme l'un de nos plus importants écrivains. Donc, il y a un peu la même chose que ce que j'avais voulu montrer avec mon livre sur Jules Verne, c'est qu'en fait, nos écrivains les plus connus à l'étranger ne sont pas toujours ceux que l'on étudie le plus, que ce soit à l'école, au collège, au lycée. Pierre Boulle, donc, c'est quelqu'un qui est assez fascinant aussi bien dans son parcours de vie, c'est avec un parcours de vie assez aventureux, que par les œuvres qu'il a léguées à la postérité, puisque là, ce soir, on va parler de La planète des singes, mais c'est vraiment un écrivain dont les œuvres méritent d'être lues et découvertes plus dans le détail.
Et pourquoi, justement, la France boude Pierre Boulle ?
C'est une très bonne question, oui. Alors, c'est un peu la même chose que pour Jules Verne, c'est-à-dire que pendant longtemps en France, c'est en train d'évoluer depuis, je dirais, le début du XXIe siècle, mais on a eu beaucoup de difficultés à reconnaître la qualité de textes qui ne relevaient pas de ce que l'on appelle la littérature blanche, la littérature réaliste, pour le dire autrement. On a toute une tradition qui remonte au XIXe siècle, où en fait on considérait que les grands textes romanesques étaient des textes plutôt réalistes, en phase avec nos préoccupations du moment. C'est ce qui fait donc que, par exemple, il y a eu un discrédit autour de Jules Verne qui a duré pendant un certain temps. Et Pierre Boulle, étant donné qu'il est surtout connu, c'est vrai maintenant, pour La planète des singes en France, qui finalement est son texte qui est le plus lu en France, davantage que Le pont de la rivière Kouai, eh bien, on a finalement considéré que c'était de la littérature sans grand intérêt, que ce n'était pas un texte qui méritait d'être considéré avec attention. Et donc, ça explique en partie cela, ce qui est assez injuste en plus le concernant, parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout cantonné à la seule science-fiction. Et par ailleurs, il écrit de la science-fiction intelligente, puisqu'on va avoir l'occasion, je pense, d'en parler. Mais La planète des singes a une vraie dimension philosophique, pose des questions sur notre rapport à la nature, notre rapport aux autres êtres humains, à la notion également d'étranger. Donc voilà, c'est comme assez souvent, moi je suis professeur de littérature dans l'enseignement supérieur, donc je le constate, les personnes qui critiquent le plus les œuvres de science-fiction sont en réalité celles qui n'en ont jamais lu et qui ont beaucoup de préjugés par rapport à cela. Et Pierre Boulle, malheureusement, fait partie également de ces auteurs qui ont été dénigrés sans être véritablement lus dans le détail.
Ce qui est assez ironique, parce que Pierre Boulle, je suis pas sûr qu'il considérait la planète des singes comme son œuvre majeure, en fait. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a cédé facilement les droits intégrales à la Fox à l'époque, non ?
Ah oui, il considérait que c'était un de ses textes importants, mais pas du tout le texte pour lequel il avait la plus grande affection ou admiration. Il avait d'autres textes qu'il portait davantage au nu. Et il a toujours été assez surpris d'ailleurs du succès de La Planète des Singes au cinéma, puis ensuite en tant que roman. Pour lui, c'était pas son texte le plus abouti. On peut rappeler d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas lu le roman, que c'est un roman assez court, hein. Il fait 200 pages, qui a amené d'ailleurs parfois certaines personnes à dire qu'il s'agissait d'une nouvelle, ce qui n'est pas tout à fait juste, c'est plus un petit roman. Et donc, oui, c'est assez drôle de voir qu'un auteur, finalement, ne maîtrise jamais totalement ce qu'il lègue à la postérité. Et Pierre Boulle, je pense qu'il n'aurait pas aimé à notre époque être essentiellement connu comme l'auteur de La Planète des Singes.
En effet, c'est ce qui ressortait dans votre livre d'ailleurs. Pierre Boulle, il a plusieurs influences. On le considère aujourd'hui comme l'un des héritiers des deux pères de la science-fiction, Jules Verne et H.G. Wells. Si on part pour aller un petit peu plus loin sur le roman La Planète des Singes, en tant qu'œuvre littéraire, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs influences qui étaient intégrées dedans. On parle d'une aventure qui est tragique, d'un déclin intellectuel de l'humanité. On va parler aussi d'une satire de l'humanité. Il y a une influence qui provient des auteurs des contes philosophiques, des auteurs de science-fiction. Vous nous en parlez un petit peu plus ?
Oui, non, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est en cela que c'est une œuvre de qualité que j'ai voulu justement moi y consacrer un essai, parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce qui a motivé l'écriture de mon essai, c'est qu'il n'y avait pas eu d'études exhaustives de La Planète des Singes. Il existait quelques textes essentiellement écrits aux États-Unis qui s'intéressaient aux films et notamment aux premiers films qui avaient été produits, mais il n'y avait aucun livre sur La Planète des Singes qui parlait du roman, des sources d'inspiration de Pierre Boulle, et puis également ensuite, on va, je crois, avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard, de l'univers étendu qui s'est mis en place autour des films et autour du roman et qui n'est pas toujours bien connu du grand public. Donc, mon ouvrage, justement, essaye d'aborder l'histoire de La Planète des Singes, de ses origines jusqu'à nos jours, en essayant de ne pas négliger ces différents aspects. Le roman de Pierre Boulle, ce qui est très intéressant, c'est que c'est effectivement une somme de lectures très différentes. C'est à la fois un héritier du roman, du conte, philosophique pratiqué au XVIIIe siècle. Donc, il s'est beaucoup inspiré de contes philosophiques comme ceux écrits par Voltaire avec Micromégas, que l'on considère parfois d'ailleurs comme l'un des premiers textes de science-fiction de l'histoire de l'humanité, les Lettres persanes de Montesquieu. Donc voilà, il est l'héritier d'une littérature de type philosophique. Dans mon essai, je parle également de l'influence qu'a pu avoir le roman Les Voyages de Gulliver de Swift. Donc là, c'est pas un roman français, mais dans ce roman britannique, ce qui est très intéressant, c'est que à travers les voyages et l'aventure, en fait, Swift essaye de nous amener à réfléchir sur les sociétés humaines. Il fait la satire finalement de nos modes de vie, de nos travers. Et notamment, il y a dans l'un des voyages de Gulliver, le personnage, sans entrer trop dans le détail, se retrouve sur une planète qui est dirigée, enfin pas sur une planète, sur une île qui est dirigée par des chevaux intelligents et où les humains sont retournés finalement à un stade assez primaire. Donc il y a d'abord cette littérature un peu de type philosophique, où on peut également ajouter Les Animaux dénaturés de Vercors, donc là qui est un roman publié quelques années avant La Planète des Singes, où Vercors, qui s'intéressait beaucoup à la question du chaînon manquant, va essayer d'envisager la possibilité qu'il puisse y avoir justement une espèce qui est à la frontière entre l'homme et le singe et qui nous permettrait de définir ce que nous sommes. Et la réponse qu'il propose dans son roman, qui a été adaptée ensuite en pièce de théâtre, peut-être que la pièce est parfois plus connue, ça s'appelle Zo ou l'assassin philanthrope, sa réponse c'est de définir l'être humain comme un animal dénaturé. Et à côté, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Pierre Boulle est également l'héritier de toute une littérature de science-fiction. Il est l'héritier de Jules Verne. Jules Verne, c'est l'un des premiers à avoir envisagé la possibilité qu'il puisse y avoir des singes intelligent. Dans un de ses romans qui n'est pas le plus connu, qui s'appelle Le village aérien, Jules Verne, comme Vercors plus tard, s'intéressait beaucoup à la question du chaînon manquant. C'était un lecteur de Darwin, et effectivement, il y a des références à Darwin dans La planète des singes de Pierre Boulle. Jules Verne a également écrit une nouvelle vers la fin de sa vie, où il envisage la possibilité qu'à la suite d'un cataclysme, l'humanité soit retournée à un stade primaire. Donc là, on voit vraiment les liens avec La planète des singes. Et puis, on a également toutes ces réflexions sur l'évolution de l'être humain, la possibilité qu'il puisse se dégrader avec H.G. Wells, La machine à explorer le temps. H.G. Wells s'est également beaucoup intéressé à la possibilité que les êtres humains puissent être à l'origine d'animaux intelligents, avec par exemple l'île du docteur Moreau. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Et puis il y a une dernière référence très importante qui a inspiré considérablement Pierre Boulle. Et cet auteur est lui-même un grand héritier de Jules Verne, c'est Edgar Rice Burroughs. Alors son nom ne dit pas toujours grand-chose quand on le prononce, mais c'est le père de Tarzan. Et donc les aventures de Tarzan vont bien sûr beaucoup inspirer Pierre Boulle, parce que là, on a un personnage qui est élevé par les singes et qui se considère lui-même comme étant à la frontière entre l'humanité et les primates. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a composé d'autres textes très importants dans le domaine de la science-fiction. Le cycle de Mars, qui va inspirer ensuite le roman Dune de Frank Herbert. Et puis le cycle de Pellucidar, qui est le premier grand cycle de littérature préhistorique, où Edgar Rice Burroughs envisage la possibilité qu'au centre de la Terre vivent encore des espèces qui auraient dû disparaître. Et on a des singes intelligents dans cet univers, des singes intelligents que l'on voit notamment chasser des êtres humains, comme on l'observera ensuite dans le roman de Pierre Boulle et dans ses adaptations. Donc, en fait, le roman de Pierre Boulle a beau être une œuvre assez courte, 200 pages, c'est une œuvre d'une extrême richesse parce que ses sources d'inspiration sont vraiment multiples et il ne s'est pas du tout limité à un type en particulier de littérature.
Oui, en effet, c'est très impressionnant. On parlait tout à l'heure d'une grande inspiration de Darwin et de son origine des espèces. Il y a un parallèle qui est fait avec donc le village aérien de Jules Verne, aussi avec l'éternel Adam de Jules Verne et de Smith. Mais l'originalité du roman, vous en parliez aussi, c'est la première fois que l'humanité elle est totalement dominée par une espèce simienne.
Oui. Exactement. C'était pas encore envisagé. On avait un petit peu ça avec les voyages de Gulliver de Swift, mais là c'était très limité puisque on était simplement sur une petite île où il y a donc des chevaux intelligents qui ont leur propre langage et qui vont finalement mettre en partie en esclavage des êtres humains qui sont retournés à un stade totalement primaire. Mais on n'a jamais eu l'idée déjà qu'une planète puisse être totalement dominée par une autre espèce que l'espèce humaine qui serait revenue à un stade primaire, et encore moins que l'espèce dominante soit justement composée de singes. Donc Pierre Boulle, c'est quelqu'un qui justement va proposer ici quelque chose de très neuf, et le concept est tellement puissant d'ailleurs que par la suite, non seulement l'œuvre va être adaptée au cinéma, mais comme vous l'avez dit en introduction de cette émission, on est quand même face à la plus ancienne franchise de la pop culture. C'est une franchise qui date des années 1960 et qui continue à être active et à rencontrer du succès, puisque le dernier film, Le Nouveau Royaume, est plutôt bien accueilli par la presse et les spectateurs sont en rendez-vous dans les salles. Donc ça prouve que ce n'est pas du tout une franchise qui est en train de s'essouffler.
On va y revenir. Est-ce que je m'adresse à Franck et Renaud? Est-ce que vous connaissez le roman? Est-ce que vous avez envie d'en parler avant qu'on passe à la suite?
Alors moi, je l'ai lu quand j'étais jeune. Donc ça, j'ai un souvenir assez vague, mais je sais que je l'avais beaucoup apprécié. Mais je l'ai lu justement après avoir vu les films. Parce que j'avais beaucoup aimé les films quand ils passaient à la télévision. Donc j'avais voulu découvrir le livre et c'est vrai que c'est un roman court et facile à lire, et je l'avais adoré.
Très bien. Renaud, un petit mot ?
Moi, c'était à peu près le même souvenir, effectivement. C'est vrai que je l'ai lu il y a longtemps maintenant, il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de le relire. Il fallait que je le relise, parce qu'en plus, effectivement, c'est assez court, donc c'est assez rapide à lire. Donc, je n'ai pas un énorme souvenir, mais je me rappelle que j'avais bien aimé.
Bah, très bien. Eh ben, on va passer à la suite de notre sujet. On va s'attaquer un petit peu plus au film. Donc Nicolas, dans votre livre, vous évoquez La planète des singes comme, on l'a dit, la première franchise de la pop culture, avant même Les Dents de la Mer en 1975 et Star Wars en 1977. Le premier film, il est sorti en 1968, soit 5 ans après le roman. Il a une grande influence sur l'industrie cinématographique et sur la science-fiction en général. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa genèse ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un film qui n'était pas une évidence à cette époque-là, à la fin des années 1960. Il faut savoir que la science-fiction n'avait pas la reconnaissance critique et publique qu'elle a désormais. Nous, maintenant, la plupart, enfin en tous les cas, une partie non négligeable de nos blockbusters relève de la science-fiction. On l'a vu en début d'année 2024 avec Dune deuxième partie, par exemple, où là, dans peu de temps, il va y avoir tout un engouement, je pense, autour du nouveau Mad Max. Voilà, et récemment également, ces dernières années, on avait les films Avatar, qui est le deuxième notamment, qui a rencontré un succès très, très conséquent. Et donc, d'où vient le film de La planète des singes ? Son histoire est assez intéressante parce que c'est un producteur américain, Arthur P. Jacobs, qui décide d'adapter ce roman français de Pierre Boulle. Jacobs, à l'origine, ne vient pas du tout du milieu du cinéma. C'est quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la publicité. Et qui avait par contre cette envie depuis longtemps de travailler dans l'industrie cinématographique. Et il a une idée assez intéressante. Il part du principe que pour justement se lancer dans cette industrie-là, il pourrait être bon de s'appuyer sur un matériau littéraire et d'adapter des œuvres littéraires. Et à un moment donné, donc, il va justement prospecter en France, la France étant un des grands pays littéraires, plus encore d'ailleurs à cette époque-là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un pays majeur dans le monde de la littérature. Et il va retenir, et le texte de Pierre Boulle va retenir son attention, notamment parce que lui, depuis longtemps, a une fascination pour les films King Kong. Il est fasciné par l'univers de King Kong et il a souvent dit que il aurait aimé finalement être à l'origine de cette franchise. Et donc, il va acquérir les droits. Pierre Boulle, effectivement, ne va pas s'opposer à cela parce qu'il n'accorde pas une importance démesurée à son roman. Et puis, il a vu également qu'il avait des intérêts à voir ses œuvres adaptées au cinéma, notamment avec Le Pont de la Rivière Kwai, qui avait été un immense succès, qui a beaucoup contribué à sa carrière d'écrivain, qui lui a donné un essor important. Et donc, pour convaincre d'autres sociétés de production de défendre le film, parce que Jacobs n'a pas les fonds personnels pour réaliser un tel film, eh bien, il va avoir l'idée de réaliser ce que nous appellerions maintenant un art book. Donc, il va solliciter des artistes qui vont réaliser un certain nombre de dessins conceptuels, qui vont finir par convaincre justement un studio comme la 20th Century Fox. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, l'adaptation du roman devait être assez fidèle. Il y a une bande dessinée d'ailleurs qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Vision et qui permet d'avoir une idée de ce qu'aurait dû être le film de La planète des singes si l'argent nécessaire avait été donné par la Fox pour cela. Mais la Fox était quand même un peu prudente par rapport à ce projet, n'y croyait pas totalement. Et donc, ils vont décider de modifier en partie, pas totalement, mais en partie le roman, d'être peut-être un peu moins ambitieux d'un point de vue visuel, parce qu'ils voulaient déjà que le film paraisse plutôt crédible auprès des spectateurs. Et donc, ils ont mis une grande partie du budget dans les prothèses qui sont portées par les comédiens jouant les singes, qui ont d'ailleurs été considérés comme une grande réussite. Ça a été un des points les plus salués à l'époque, quand le film est sorti en 1968. Et voilà, donc pour cette genèse, leurs deux idées, c'était de se dire il faut que les singes soient crédibles à l'écran, et ils avaient également besoin d'une tête d'affiche. Donc il y avait plusieurs idées qui ont été envisagées. C'est Charlton Heston qui a été retenu, et lui-même était plutôt motivé. Charlton Heston, à cette époque-là, nous maintenant, on a plutôt l'image à la fin de sa vie de celui qui défendait le port des armes aux États-Unis, qui était un républicain vraiment vraiment très, très convaincu. Mais à ce moment-là de sa vie, c'est plutôt quelqu'un qui s'engage pour l'égalité des droits aux États-Unis, qui va défendre la cause noire. Et vu en fait que la planète des singes avait une dimension politique, et ça l'a d'autant plus motivé finalement à participer à ce projet. Ce qui sera problématique pour la suite de la franchise, parce que pour Charlton Heston, fondamentalement, la planète des singes ne devait être qu'un seul film et non pas une franchise, une saga qui allait se développer sur un très grand nombre de films suivants.
Je rajouterai juste un détail sur cette excellente présentation, c'est que un des scénaristes de la planète des singes est quelqu'un qu'on connaît bien, y compris chez Disney. C'est un certain Rob Sterling, qu'on peut voir dans l'attraction La Tour de la Terreur. C'était le présentateur de la quatrième dimension et il va notamment avoir l'idée de transposer le roman de Boulle sur Terre et particulièrement cette fin iconique qui ressemble en fait à un épisode de la série où je crois que c'était des cosmonautes qui se retrouvent au milieu d'un désert pour se rendre compte en fait qu'ils sont sur Terre, et c'est pour ça que personne ne vient les chercher, parce que on les attendait pas là, quoi. Et bien sûr, la fameuse, on le voit à l'écran, la fameuse Statue de la Liberté et cette critique de la bombe atomique et en plein milieu de la guerre froide.
Complètement. Et puis, tant qu'on est à parler directement du film, un petit mot aussi sur la musique de Jerry Goldsmith, qui est prodigieuse. Il a été récompensé d'un Oscar pour ça. Et Jerry Goldsmith, pour les fans Disney, on le connaît principalement pour son travail sur Mulan. Et il est aussi à l'origine de la musique de Soarin' Over California dans les parcs Disney. Est-ce qu'il y a des différences notables entre le roman et le film ?
Oui, alors oui, ça a été justement évoqué à très juste titre. Il y a ce dénouement, puisque dans le roman de Pierre Boulle, en fait, les trois personnages principaux qui quittent la Terre vont se retrouver sur une autre planète, donc qu'ils décident d'appeler Soror, parce que en latin Soror ça veut dire sœur, et donc ils l'aperçoivent comme une sœur de la Terre, une planète quasiment jumelle. Mais donc on a ce choix de dénouement final qui est quand même l'un des plus grands coups de théâtre de l'histoire du cinéma. Pour moi, un des équivalents, ce serait le « Je suis ton père » de Dark Vador, justement. Mais là, ça a été, c'était plusieurs années auparavant. Et puis, dans les changements qui sont apportés, on est face à une société des singes dans le film, qui est une société plutôt arriérée en un sens. En tous les cas, une société qui n'a pas une technologie très avancée, qui est plutôt, sans être tournée à l'âge de pierre, elle peut nous faire penser en partie à une société un peu de type médiéval. Et en fait, à l'origine, justement, Serling, lui, avait prévu de représenter cette société comme plus avancée technologiquement, ce qui est le cas dans le roman de Pierre Boulle, où c'est une société qui, globalement, aurait eu une technologie à peu près des années 60-70, mais pour des raisons de budget, ça ne leur était pas possible. Donc, ils ont décidé de créer cette espèce de village un peu troglodyte, qui a une esthétique d'ailleurs assez forte. Finalement, ça n'était pas du tout un mauvais choix. Mais ça, c'est une grosse différence. Et également, pour une question de budget, c'est ce que je dis un peu dans mon essai, c'est pas le seul film qui est concerné par cela. On nous parle de Planète des singes, mais en fait, on passe beaucoup de temps dans la ville ou dans le village des singes. On n'a pas une dimension aussi importante que si on avait vraiment l'intégralité de la planète dominée par les singes. Et ça, effectivement, le roman de Pierre Boulle le montre beaucoup plus. Mais là, c'était pour une question de budget. Hein. De nouveau, la science-fiction à cette époque-là n'a pas encore gagné toutes ses lettres de noblesse. Et là où ce film de la planète des singes va être essentiel, c'est que lorsque George Lucas, dans les années 70, va proposer justement son projet de Guerre des Étoiles, eh bien, on va l'écouter de façon beaucoup plus attentive que cela n'aurait été le cas dans les années 60, parce qu'on sait que la science-fiction peut plaire aussi bien au public qu'aux critiques, qu'à la presse, et c'est notamment en bonne partie grâce à la planète des singes. Pas uniquement, mais beaucoup.
Très bien. Et fort de ce succès, il y a une suite qui est commandée. Pierre Boulle est impliqué.
Oui, pardon.
Avant de parler de la suite, moi j'aimerais quand même aborder le film en lui-même parce que on l'a peu évoqué, mais je trouve que l'aspect politique du premier Planète des Singes est quand même assez phénoménal. Il faut se rendre compte qu'on est en pleine guerre du Vietnam. La ségrégation est encore très présente. Et donc, c'est à la fois un film anti-militariste et aussi un film anti-raciste. Et je pense que c'est ce qui va donner la puissance à cette franchise. C'est tout l'aspect politique que vont véhiculer en fait tous les épisodes au fur et à mesure. Et celui-ci a été vraiment impressionnant. Je pense notamment à la scène où les singes chassent les hommes. Qui est d'une violence inouïe et qui rappelait en fait les émeutes étudiantes à l'époque contre la guerre du Vietnam ou les manifestations pour la des Afro-Américains. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de très puissant dans ce film et je pense qu'il explique son succès populaire.
Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, on peut, pour compléter cela, ça fait partie de l'ADN d'ailleurs de la franchise. C'est-à-dire que c'est toujours une saga qui va ensuite aborder des questions politiques. Alors, ce sera pas toujours justement les mêmes thématiques politiques qui sont traitées, mais il y a toujours ce fil rouge qui existe aussi bien pour les 5 premiers films qui sont sortis à la fin des années 60, début des années 70, que pour la nouvelle trilogie. Et à vrai dire, même le nouveau royaume lui-même a une dimension politique que l'on perçoit d'ailleurs plus dans la seconde partie du film.
En effet. Est-ce qu'on passe un petit peu à la suite ou vous avez encore des points à dire sur le premier film ? C'est vrai que le programme est un peu dense et je suis obligée de vous freiner un petit peu.
Peut-être juste une précision, le premier film, parce que ça fera la transition avec les films suivants, ça a été un film qui a été extrêmement rentable. Il était coûteux à cette époque-là, mais c'était pas non plus un budget absolument faramineux. Et sa rentabilité fait que, alors même que Pierre Boulle n'a pas écrit justement de deuxième roman de La Planète des Singes, et alors même que Jacobs, en produisant ce premier film, ne pensait pas faire une suite, il se rend compte que c'est vraiment ici une saga qui doit être exploitée, qui mérite d'être exploitée, parce que le succès est très important aux États-Unis, mais également dans le reste du monde.
Très bien.
Et donc, ils vont faire des films. Donc, à partir de 1970, ils vont faire des suites, en commençant par Le Secret de la Planète des Singes. Ils en feront un tous les ans. Alors, Le Secret de la Planète des Singes, moi, j'ai un peu de mal sur ce film. Je pense que c'est quand même, des quatre, c'est le plus celui qui fait série B. Même s'il y a Charlton Heston qui revient à la fin, cette idée de culte d'une fusée nucléaire est assez étrange, avec ce mélange d'humains un peu mutants. D'ailleurs, pour le coup, je trouve que on disait qu'il y avait beaucoup de H.G. Wells dans Pierre Boulle. Je trouve que le deuxième fait un peu penser à ça, en fait. Les humains mutants ressemblent à ceux de H.G. Wells dans La machine à explorer le temps. Mais c'est surtout que, étrangement, on sentait qu'il voulait lancer une franchise. Pourtant, la fin du deuxième tue toute franchise, quoi. De base. Donc c'est étonnant qu'ils aient pu rebondir avec le troisième, Les Évadés de la Planète des Singes, qui lui sort donc en 71, en prenant une idée toute bête, mais que je trouve excellente. C'est en faisant revenir Zia et Cornelius, accompagnés d'un troisième membre, à l'époque, dans le présent sur Terre, donc dans le présent de l'époque, donc dans les années 70, ça a plusieurs avantages. Déjà, ça reboot la franchise. Le deuxième, c'est qu'en inversant les rôles, ça coûte moins cher. puisqu'il n'y a pas besoin de décor, tout se fait en live. D'ailleurs, il y a une autre franchise qui aura la même idée, d'ailleurs, une décennie plus tard, c'est Star Trek avec Retour sur Terre. Dans cette deuxième suite, le fait d'inverser les rôles permet de mettre plus en avant le côté critique du racisme. Et d'ailleurs, le film montre bien le fameux adage qui dit qu'on lèche, on lâche, on lynche. Bah, au début, les singes sont adulés, puis on commence à s'en méfier, puis à la fin, ils sont carrément assassinés, quoi. Donc, il y a vraiment une critique que je trouve très forte dans ce film. Et d'ailleurs, qui va expliquer la troisième suite, donc la conquête de la planète des singes, qui date donc de 72, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Pour moi, des quatre suites est sûrement la meilleure. Je sais qu'elle fait débat. Alors, techniquement, elle est en deçà, mais je trouve que la puissance du message est phénoménale. Surtout si on voit la fin qui a été coupée, en fait. Puisque le film était tellement fort avec le message de César, puisque pour le coup, c'est le fils donc, de Cornelius Caesilla, César qui, à la fin, demande à lyncher en fait, les humains et que beaucoup, en fait, lors de la première du film, avaient pris une critique en fait, où les Afro-Américains se devaient de lyncher leur oppresseur blanc. La Fox a été très frileuse en fait, de cette fin et a demandé à retourner le discours de fin pour donner en fait un discours beaucoup plus tout le monde s'aime, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Ce qui emmène le cinquième film sorti en 73, le dernier de la première époque, qui est La bataille de la planète des singes, qui là a perdu beaucoup de discours politiques et sociaux. On se retrouve plutôt devant un film de science-fiction blockbuster de base, mais où la franchise a vraiment été essorée. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça sera le dernier film pendant de nombreuses décennies.
Nicolas, Renaud, vous voulez ajouter quelque chose ou on avance sur justement les... Il y a eu plusieurs projets de films qui ont été envisagés après à la fin des années 80, des années 90. Il y a eu aussi des séries, on reviendra aux séries après, on continue un petit peu notre progression sur la partie cinématographique. Parmi ces projets qui ont été avortés, il y en a un qui était notamment avec Chris Columbus pour réalisateur, Chris Columbus qu'on connaît pour les deux premiers Harry Potter, et puis Maman, j'ai raté l'avion. Finalement, la saga revient en 2001. Au cinéma avec le film qui est réalisé par Tim Burton et qui est un échec critique. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots avant qu'on discute du reboot?
Moi, j'adore Tim Burton et surtout à l'époque, j'adorais tout ce que faisait Tim Burton pour moi et c'était de l'or. Et j'adorais La Planète des Singes. Et pourtant, j'ai pas aimé ce film parce que justement, il y a ni le côté, j'ai envie de dire, loufoque de Tim Burton, ni l'aspect politique de La Planète des Singes. Donc en fait, on se retrouve avec un blockbuster de base où on n'a ni la saveur de l'un ni la saveur de l'autre. Et ça a été pour moi, le premier échec de Tim Burton. Pourtant, à peu près à la même époque, il fera un Big Fish qui est beaucoup plus foisonnant d'idées. Alors que là, c'est vraiment... C'est vraiment un univers qui n'allait pas du tout à Tim Burton, alors qu'on aurait pu penser que oui. Pourtant, il avait réussi à faire deux super Batman, donc voilà.
Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la planète des singes, donc pour faire le pont avec entre Tim Burton, son projet et les 5 premiers films dont il a été question avec vraiment beaucoup de précision, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est que c'est une franchise qui a toujours été rentable, c'est-à-dire qu'à mesure où les 5 premiers films ont été produits, on utilisait de moins en moins de budget et pourtant, à chaque fois, il y avait une rentabilité importante. Le film de Tim Burton, donc, justement, s'appuie un peu sur cette idée-là. L'idée que c'est une franchise qui a été absente pendant longtemps des salles obscures, mais qu'elle a toujours finalement connu un certain succès, qu'elle a un socle assez important au niveau de ses fans, de son public. C'était le premier film qui avait l'intention d'adapter le plus fidèlement possible à l'origine le roman de Pierre Boulle, notamment parce que les moyens au niveau des effets spéciaux et du budget étaient plus importants que dans les années 1968. D'ailleurs, pour l'anecdote, le film La Planète, c'est bien une planète différente de la Terre, ce qui n'était pas le cas dans les 5 premiers films. Donc là, c'est conforme à l'esprit de Pierre Boulle. Mais en fait, Tim Burton n'a pas véritablement réussi à trouver à se positionner dans ce film. C'est-à-dire que ce n'est pas un film aussi profond politiquement et philosophiquement que ceux qui ont été créés dans les années 70. Et c'est un blockbuster, mais un blockbuster qui ne l'est pas non plus totalement. Il y a une dimension épique, mais qui est surtout présente à la fin du film. Et puis, un point aussi qui a été beaucoup reproché à ce film-là, c'est d'avoir un dénouement qui se voulait surprenant un peu à la manière du premier film, mais qui a été raté. Les acteurs eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils étaient interrogés à l'époque par les journalistes pour expliquer cette fin, certains d'entre eux disaient qu'eux-mêmes, ils ne l'avaient pas comprise. Donc, voilà. Et peut-être pour terminer sur ce point-là, c'est un film qui était censé être le début d'une nouvelle trilogie au minimum, mais comme effectivement les critiques ont été particulièrement mauvaises, eh bien ça a été abandonné. C'est pour ça qu'ensuite on va avoir le reboot des années 2010.
Et donc le reboot, ça sera en 2009, La planète des singes, les origines. Alors là, je...
2011.
2011, oui, voilà. Oui, pardon. Oui. Je confonds toujours, je rajoute 2 ans. Là, je vais passer un petit coup de gueule sur le titre français. Parce que, autant je trouvais que le de la planète des singes, on mettait un mot à chaque fois, était beaucoup plus, quelque part, poétique que la planète des singes, 2 points et un titre. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas eu les origines de la planète des singes, l'affrontement de la planète des singes, la suprématie de la planète des singes. Enfin, voilà, ça aurait pu être. On aurait pu garder ce qui avait été fait auparavant. Alors, je suppose que c'était pour différencier de façon marketing et dire que c'était une nouvelle saga qui commençait. Mais bon, je trouve ça un peu dommage.
Alors, je pense que c'est voulu, effectivement, parce qu'en fait, ça se démarque vraiment, la nouvelle saga, on repart sur des nouvelles origines, on repart sur toute une nouvelle mythologie. D'ailleurs, Pierre Boulle n'est même pas crédité au générique des films, des derniers films de la planète des singes, parce qu'effectivement, même si on reprend évidemment l'histoire de la planète des singes, on repart sur une mythologie qui est quand même assez différente. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu marquer la différence. Je ne sais pas, hein, mais...
Oui, c'est très juste. Et puis, en fait, il y avait la volonté justement de se dire qu'il fallait partir de quelque chose de neuf, parce que, en fait, la première saga, les 5 films, forment un ensemble qui est assez cohérent, même s'il y a bien sûr des faiblesses scénaristiques dans certains d'entre eux. Ils se sont rendus compte que l'idée finalement d'essayer de coller un peu au roman de Pierre Boulle, même si ça a été fait très maladroitement, c'était peut-être pas la meilleure manière de procéder avec le film de Tim Burton. Et puis, ce qui est intéressant avec cette nouvelle trilogie, c'est qu'il y a une volonté de se dire on fait en sorte que La planète des singes reste une œuvre d'actualité. Dans les années 70, La planète des singes va être justement très révélatrice des peurs de l'époque, donc la peur du nucléaire, notamment avec les 2 premiers films, comme ça a été bien évoqué, et puis également la peur des luttes et des tensions raciales, notamment aux États-Unis, avec quand même la crainte parfois d'une guerre civile. Et c'est vrai qu'au début du 21e siècle, ces craintes-là, notamment la crainte du nucléaire, n'est pas aussi importante qu'autrefois. Donc, on a plus des craintes qui sont liées à la bioéthique. Au début du XXIe siècle, il y avait toute une crainte autour justement du clonage, de l'utilisation des manipulations génétiques. Et donc, la planète des singes va justement évoluer aussi pour s'adapter à ce nouveau public qui a d'autres préoccupations et d'autres problématiques que le public des années 60-70.
C'est vrai que l'affrontement, ça prépare au Covid qui arrivera quelques années plus tard. Quoi. C'est assez impressionnant à voir.
Ouais, c'est fascinant.
À voir, avec le recul. Quoi.
Effectivement. Alors, je me permets de réagir par rapport à un commentaire. Il me semble qu'il est crédité en mode d'après les personnages de Pierre Boulle. Alors, justement, non, et moi, c'est ça qui m'a choqué. J'ai revu les films la semaine dernière. C'est bien écrit d'après les personnages d'eux, mais c'est d'après les personnages de. Je récupère les noms de Rick Jaffa et de Amanda Silver, qui sont les scénaristes et producteurs des nouveaux films. Donc, il n'y a vraiment aucune référence qui est faite à Pierre Boulle.
Particulier. Et Pierre Boulle avait complètement cédé ses droits et à la Fox, si je comprends bien.
Oui, et puis Pierre Boulle, en fait, il a de lui-même assez vite décidé de se détacher de la planète des singes parce qu'il a été déçu du fait que son scénario pour le deuxième film, donc qui est devenu Le secret de la planète des singes, n'ait pas été choisi, alors que quand on compare justement Le secret de la planète des singes, le film, à ce que lui avait appelé donc La planète des hommes, c'était le titre de travail de ce deuxième film d'après lui, eh bien on s'aperçoit qu'en fait sa proposition était assez intéressante. La Fox ne l'avait pas suivi sur ce point parce qu'elle estimait justement, comme on voyait les singes revenir à l'état primaire et les hommes reprendre le dessus sur ceci, ils trouvaient que ça risquait de menacer la possibilité de créer une véritable saga, puisqu'on aurait montré finalement que la domination des singes, elle allait tôt ou tard cesser, et donc difficile dans ces cas-là d'envisager plusieurs films. Et donc non seulement il a été déçu que l'on abandonne son scénario que lui estimait de qualité, mais en plus finalement ce scénario, il a été dépecé parce que progressivement dans la saga, on a repris certains éléments de ce qu'il avait mis en place dans La planète des hommes sans nécessairement le créditer fortement ou insister sur le fait qu'il avait inspiré tel ou tel film. Les réalisateurs ou les scénaristes, au moment d'échanger avec les journalistes pour faire la promotion des films, ne parlaient pas nécessairement de ce scénario de Pierre Boulle, et c'est assez tardivement que l'on a découvert effectivement l'existence de ce texte et l'importance que celui-ci avait pu avoir sur un certain nombre de films de la saga.
Oui, en effet. Très bien. Est-ce que vous voulez parler davantage de ce reboot où on passe au reste de la franchise, parce que ce n'est pas qu'une saga cinématographique ? Ça vous va ? Et on reviendra de toute façon plus en détail sur le dernier film, bien évidemment.
Je pense qu'on peut revenir, parce que le dernier film, c'est la suite des trois précédents. Donc, je pense qu'on pourra revenir sur les trois films lorsqu'on parlera du dernier, effectivement.
Tout à fait. Ça fait sens. Donc, je le disais, ce n'est pas juste une saga cinématographique, ce n'est pas juste un roman. Au cours des années 70, la rentabilité de la franchise a fait que il a été décidé de déployer la saga La planète des singes sur le petit écran. Qui veut nous en parler ?
En fait, le dernier film date de 73, et donc la Fox continuait à essayer de faire vivre cette franchise. Alors, elle va le faire vivre de deux manières. D'abord, toujours en audiovisuel, mais à la télévision, avec la série La planète des singes, qui durera 13 épisodes. Et qui fera revenir Roddy McDowell dans le casting. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune, elle est passée en France. J'ai acheté le DVD, mais je l'ai pas revu encore. Donc je me rappelle plus trop. Mais de ce que j'ai compris, c'est un préquel au premier film. Nicolas, tu me corriges ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est même un lointain préquel, hein, parce que en fait, ça se passe à peu près 1000 ans avant les événements du film de 1968 avec Charlton Heston. Hein. Et c'est pour ça que, par exemple, dans cette série, les singes sont plutôt l'espèce dominante de la planète, mais les humains n'ont pas totalement régressé, sont encore capables de s'exprimer, de penser, d'interagir avec les singes. Et donc, cette série a un certain nombre de défauts qui vont justifier le fait qu'elle soit abandonnée en cours de production. Mais par contre, elle avait quand même l'intérêt de présenter des interactions différentes de celles qu'on connaissait des précédents films, à savoir qu'ici, on a une humanité qui est sur le déclin, mais qui n'a pas non plus connu un déclin absolu et total. Et puis, ce qui était intéressant dans cette série aussi, c'est qu'on découvrait plusieurs territoires différents, justement, et on ne se limitait pas au fameux village un peu troglodyte des singes. On voyait des singes vivre au bord de la mer, d'autres vivre à la campagne, vivre d'agriculture, etc. Certains qui vivent dans des villes abandonnées suite à l'Holocauste nucléaire. Donc, ça enrichissait en fait beaucoup l'univers qui avait été mis en place par les premiers films.
Et donc, en 75, sortira une deuxième série, mais cette fois-ci en animation, Le Retour de la Planète des Singes, même si elle n'a jamais été doublée en France, avec une animation très, très sommaire et que tout le monde considère comme oubliable. Et je ne l'ai pas vue.
Oui, et alors non seulement il n'y avait pas beaucoup de moyens qui étaient mis en place dans cette série, donc effectivement l'animation n'est pas de grande qualité, mais en plus c'était très bizarre, ils n'ont pas vraiment réussi à déterminer leur public cible, parce que à la fois c'était une série qui voulait plutôt s'adresser à un jeune public, mais les thématiques étaient assez dures, assez violentes, mais cette violence n'était pas pleinement assumée. Par exemple, les scénaristes avaient pour consigne de ne montrer aucun mort à l'écran et d'éviter que les personnages qui étaient pourtant armés ne se servent trop souvent de leurs armes. Donc, c'est vraiment une série qui a eu des difficultés considérables à définir son ADN, finalement, et elle aussi, d'ailleurs, comme la série live, elle sera arrêtée en cours de production. Elle est encore moins connue effectivement du grand public, parce que contrairement à la série qui a été traduite dans plusieurs, la série live qui a été traduite dans plusieurs langues et qui est passée sur plusieurs chaînes de télévision publique, que ce soit en France ou dans d'autres pays du monde, là cette série d'animation, elle est essentiellement connue des États-Unis, aux États-Unis, et plutôt de personnes qui appartiennent à des générations un peu plus âgées.
Et tiens, et d'ailleurs, je veux préciser quand même une petite chose. Cette série a été faite par Deep Patrick Lang Productions. Alors, pour les connaisseurs, il faut savoir que ce studio a été ensuite racheté par Marvel Productions avant de devenir Saban Entertainment, qui a été ensuite racheté par Disney. Donc, la série avait déjà un lien avec Disney et Marvel, c'est assez étonnant, et ça me permet de faire une petite transition donc pour parler de l'autre côté de la franchise, mais côté papier cette fois-ci, avec les comics, et justement qui ont été publiés chez Marvel.
Transition toute trouvée, merci.
Voilà, voilà, qui ont été publiés sur Marvel. Alors là, je vous montre, c'était un des deux volumes sur quatre qui ont été traduits en France, les volumes 3 et 4 ne le sont pas, par Panini, qui reprenait en fait l'intégralité des comics en noir et blanc, parce que c'était en fait un magazine en noir et blanc, qui adaptait à la fois les films, mais proposait aussi des histoires inédites. Pour ceux qui auraient les livres et qui ne les a pas lus, ou ceux qui arriveraient à les trouver en occasion, je le conseille vraiment, parce que ce sont vraiment des comics déjà très beaux graphiquement, et puis qui permettent de prolonger et d'approfondir en fait la franchise. Et personnellement, moi j'ai lu les deux volumes, je les trouve excellents. Sinon, Panini vient de sortir les deux premiers films en couleur, donc voilà, ça fait 11 numéros, donc ils l'ont sorti récemment. Ouais.
Je crois que c'est un des visuels qu'on voit, le deuxième en partant sur la ligne du
oui, haut. C'est ça, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Donc ça, c'était Marvel, et donc Marvel va s'occuper de la franchise de 74 à 77. Et après, la franchise va passer à différents différents éditeurs. Pour revenir en fait à Marvel dans les années Bella, récemment, dans les années 2020, grâce au rachat de la franchise par Disney. Donc ça permet à Marvel de se remettre à publier des comics, La Planète des Singes.
En effet.
Oui, ce qui est très intéressant pour compléter ce qui a été dit et qui est très juste, c'est que c'est ce qui va permettre en fait à la franchise de continuer finalement à survivre tout en étant finalement plus présente au cinéma, parce qu'elle a été absente des salles obscures pendant très longtemps. Et donc, il va se développer tout un univers étendu, notamment donc avec les comic books, mais également avec tout un tas de produits dérivés, notamment les enfants achetaient les figurines de la Planète des Singes. On proposait également les masques de singes qui pouvaient être portés. Il y a beaucoup d'enfants américains, on a des témoignages qui s'amusaient un peu comme on joue aux gendarmes, aux voleurs. Bah, eux, ils jouaient à la Planète des Singes en se procurant ces masques-là. Et c'est ce qui fait que justement, quand la franchise va revenir ensuite sur les écrans de cinéma au début du 21e siècle, et ben on va avoir finalement un public qui est déjà prêt, parce que ce sont des enfants ou des adolescents qui ont grandi avec la Planète des Singes, sans avoir été toujours des spectateurs des films quand ils sont sortis au cinéma, mais qui les ont revus en cassette, par exemple, en VHS à l'époque, et puis qui ont surtout grandi finalement en connaissant les aventures proposé par Marvel et les aventures qu'ils inventaient eux-mêmes en jouant à la Planète des Singes avec les figurines ou avec leur masque de primates.
Ou avec des jeux vidéo aussi, puisqu'il y a eu plusieurs jeux vidéo qui sont sortis au cours des différentes années sur la Planète des Singes.
Mmh. Oui. Et c'est un peu un parallèle pour terminer que l'on pourrait établir avec Star Wars. Il ne faut pas oublier que Star Wars, donc, il y a eu la trilogie originale, puis ensuite, on a quand même dû attendre un nombre assez conséquent d'années avant d'avoir les épisodes 1, 2 et 3. Et c'est en partie l'univers étendu aussi qui va permettre d'entretenir encore la flamme avec tout ce que l'on appelle maintenant les romans de l'univers Legends et qui ont été quand même très appréciés par beaucoup de lecteurs et de fans de la saga à travers le monde.
D'ailleurs, toujours par rapport à Star Wars et pour faire un lien, quand George Lucas, enfin quand Lucasfilm vient proposer à Marvel de faire des comics, ils disent bon, les adaptations de films, ça marche pas trop. Voilà, ils sont un peu sceptiques, donc ils vont accepter, mais demander parce que justement la Planète des Singes avait eu un succès d'estime, mais sans plus, quoi. Et en plus, c'était qu'en noir et blanc, alors que Star Wars sera en couleur. Et donc, ils vont accepter de publier, mais sans prendre trop de risques financiers, ce qu'ils vont d'ailleurs s'en mordre les doigts, puisque les comics Star Wars vont sauver Marvel à une époque où le marché commençait à décliner. Sauf que bah, quand ils vont devoir renégocier le contrat au bout de quelques années, bah, ils seront dans une position bien moins favorable qu'au lancement de la série qui durera quasiment 10 ans.
Très intéressant. Avant de passer à la suite de notre live, il y a juste un dernier petit truc allusif qui montre aussi le succès de la Planète des Singes, c'est qu'on le retrouve à plusieurs reprises mentionné dans les Simpsons. Il y a plusieurs allusions à la saga qui s'est faite dans la pop culture et dans les Simpsons en particulier. Par exemple, on a dans la saison 5, on a Homer qui va imiter Charlton Heston en face de la... Voilà, on le voit à l'écran, de la Statue de la Liberté. Ou alors dans la saison 7, il y a une comédie musicale qui est complètement inspirée de la Planète des Singes. Mm. Vous aviez vu ces épisodes ?
Ah oui.
Oui.
Ah oui, puis la chanson, on peut la trouver facilement sur YouTube. La chanson de la comédie musicale autour du Dr Zaius est quand même excellente.
Mais moi, le clin d'œil que je me rappelle surtout, c'est dans le film La folle histoire de l'espace.
Ah oui.
Mmh. Ouais.
Cœur sur Mel Brooks.
Et ce qui est drôle, c'est que Matt Groening est un fan de la planète des singes, donc c'est pour ça qu'il y a autant de références dans les Simpsons. Et ensuite, on les retrouve également dans Futurama. Justement, dans mon essai, je me suis amusé à répertorier un peu, alors pas l'intégralité, mais les références les plus amusantes dans la pop culture. Et en fait, il y en a énormément dans les Simpsons et dans Futurama. Parfois, c'est très discret, ça peut être le temps d'une très courte scène. Et puis parfois, c'est presque tout un épisode qui tourne autour de ça, et l'épisode des Simpsons, effectivement, où il y a cette comédie musicale, est l'un de ceux où il est le plus question de la planète des singes.
Très bien. On passe à la suite, ça vous va?
Parfait.
Alors, retournons dans le milieu du cinéma. Il y a la planète des singes, le dernier royaume, qui est sorti au cinéma voilà 2 semaines. On peut dire qu'il performe au box-office. Et avant de vous laisser en parler, voilà la bande-annonce.
Quand je dors, je vois des choses étranges.
Des souvenirs.
Pas des souvenirs. Des choses nouvelles. Je vois tout.
Ah, crois-moi, tu n'as encore rien vu.
Merci. Je vais faire un petit mea culpa. J'ai fait un gros lapsus. On m'a dit dans l'oreillette que j'imaginais que c'était le tout dernier film. Non, il ne s'appelle pas La planète des singes, le dernier royaume, mais La planète des singes, le nouveau royaume. Toutes mes excuses. Je vais laisser Renaud nous présenter un petit peu ce nouveau film.
Alors, effectivement, donc La planète des singes, le nouveau royaume, c'est un film en fait qui était annoncé en 2019. Suite au rachat donc de la 20th Century Fox par Disney. Tout de suite, Disney a voulu relancer certaines franchises. Il y a eu l'annonce d'un film Indiana Jones. Il y a eu donc l'annonce Indiana Jones, non pas, c'était pas, pardon. Il y a eu donc plusieurs Aliens, voilà, je voulais dire. Et il y a eu donc La planète des singes qui a été annoncée tout de suite avec une nouvelle trilogie qui ferait suite à la précédente trilogie, les origines, l'affrontement et Suprématie. Donc, on va commencer par revenir un petit peu sur les derniers films pour voir un petit peu l'histoire générale. Je pense qu'il y a prescription, on peut spoiler un petit peu là sur l'histoire des précédents films. Donc, en fait, on est effectivement sur une nouvelle mythologie qui est mise en place. Donc, dans les origines, on a effectivement donc un nouveau singe qui nous est présenté, un singe qui nous est présenté qui est donc César, qui est élevé par des humains, d'abord dans un laboratoire. Pour des tests pour un vaccin contre Alzheimer, et qui est ensuite élevé par celui qui fait les tests sur le vaccin. Donc, à la fin du premier film, effectivement, on a César qui devient indépendant et qui conduit les singes du laboratoire et de plusieurs zoos à côté, et d'un zoo dont lui-même il avait dû être enfermé pour, on va pas faire tout le film, mais pour certaines raisons. Donc, l'histoire se passe à San Francisco. Là, une chose d'ailleurs que je voudrais dire, on parlait tout à l'heure de la planète des singes qui n'était pas forcément dans les premiers films notamment étendue sur toute la planète, que c'était surtout sur un village. Là, les quatre derniers films de la planète des singes, on est vraiment sur les États-Unis. Alors déjà, tout se passe autour de San Francisco quasiment, et vraiment c'est très centré sur les États-Unis. On ne parle jamais, à part au début du 2 quand on explique la pandémie, lié au singe, qu'on présente un petit peu le monde entier, mais sinon tout se passe aux États-Unis et c'est toujours en lien avec les États-Unis. Donc ça, c'est une chose qu'on n'avait pas forcément dans les précédents films, où on mettait pas forcément en avant les pays. Là, c'est les États-Unis. Donc à la fin du premier film, effectivement, on a César qui installe une nouvelle communauté avec tous les autres singes et commence alors ensuite l'affrontement. Donc l'affrontement, ça se passe 10 ans après le premier film. Et dans ce film, l'humanité a quasiment disparu. Je crois qu'ils disent au début que 95% de la population mondiale est décédée des suites de la pandémie, liée en fait à une diffusion en fait de ce qu'ils vont appeler la pandémie simienne. En fait, le vaccin il a un petit peu dégénéré et en fait dans l'air il y a quelque chose qui s'était développé. Il y a un des médecins qui développait le vaccin qui a été touché, et en fait il va contaminer d'autres personnes qui vont contaminer d'autres personnes, et c'est comme ça donc que la pandémie simienne va démarrer et qu'elle va éradiquer une grande partie de l'humanité. Pour les humains restants, ils se retranchent dans des cités, dans des villages, comme ils peuvent, et ils essayent de survivre et de redévelopper la société. À ce moment-là, donc, on a un village qui est donc dans San Francisco, et les singes qui sont dans une forêt en face. En fait, des humains viennent dans le village, parce qu'en fait il y a derrière le village un barrage qu'il faut relancer pour créer l'électricité. Et en fait, ça va créer des frictions entre les deux sociétés qui, du coup, ben, vont se croiser, qui vont essayer d'instaurer la paix, sauf que malheureusement, ça va mal se passer, d'où le nom de l'affrontement. Mais César, c'est le personnage principal. C'est un personnage en fait qui est très lié aux humains, parce qu'il a été élevé par les humains et il a beaucoup d'amour pour les humains. Lui, son projet, ça a toujours été et ce sera toujours d'être en paix avec les humains. Lui, en fait, il a deux vocations. C'est être en paix avec les humains et défendre les singes, faire que les singes soient unis entre eux. C'est d'ailleurs son credo, hein, singe plus fort ensemble, et faire en sorte que la société des singes puisse prospérer de son côté sans être en guerre avec les humains. Dans Suprématie, ça va encore dégénérer. L'humanité continue encore. Donc, ça se passe 5 ans après Suprématie, 5 ans après l'affrontement, donc 15 ans après le début de la pandémie, à la fin de Les Origines. Donc là, les humains sont encore plus mal en point, il y a eu encore plus de morts, et surtout, la pandémie simienne, elle a évolué, parce que désormais, les humains commencent à perdre leur capacité intellectuelle, et notamment le don de la parole. Donc les humains deviennent de plus en plus muets et ont des capacités intellectuelles de plus en plus réduites, alors que les singes continuent au contraire à prospérer de plus en plus. Et donc en fait, il y a une faction militaire qui va essayer d'éradiquer les singes. Et malheureusement, ça va mal se passer parce que les humains vont se faire la guerre entre eux également. Et à la fin de Suprématie, donc, il n'y a quasiment plus d'humanité. Et César réussit à conduire ses singes vers, je ne sais pas, c'est pas dit d'ailleurs, je crois, mais vers un autre endroit, si, dans le désert de Morave, hein, pardon. De déplacer les singes dans cette zone. Et à la fin du film, César meurt. Donc là-dessus, donc César, il est présenté comme un personnage assez messianique, hein, qui conduit son peuple. C'est littéralement Moïse, conduit son peuple en terre promise. Et ça, c'est un élément qu'on va garder, qui est très important pour le nouveau film, que je ne spoilerai pas trop pour le coup, hein, puisqu'il est en salle actuellement. Mais voilà, simplement, au début du film, Le Nouveau Royaume, ça commence sur l'enterrement de César, enfin l'inhumation de César. Et ensuite, le film va prendre place des générations plus tard. Alors après recherche, apparemment, ce serait 300 ans plus tard, environ. Et on va découvrir une nouvelle société de singes. Voilà, je ne sais pas, on va peut-être pas plus développer pour l'instant sur l'histoire, ou je ne sais pas si vous voulez...
Et je ne suis même pas sûr qu'ils le disent, en fait, dans le film, parce que justement, moi aussi, j'étais persuadé, j'avais lu que c'était 300 ans, mais dans le film, ils disent
plusieurs générations plus tard. Oui, c'est après recherche, hein, qu'apparemment, sur Internet, dans le scénario, c'est écrit que c'est 300 ans, mais dans le film, non, c'est des générations plus tard, effectivement.
Oui, c'est ça, exactement. C'est le réalisateur Wes Ball et puis l'équipe du film qui, dans les interviews, a bien dit que c'était 300 ans plus tard, mais l'information n'apparaît jamais en tant que telle dans le film.
Voilà, tout à fait.
Ça laisse le flou, ce qui n'est pas plus mal, en fait.
Oui.
J'imagine donc que vous avez tous les trois vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Franck, par exemple?
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ça baisse quelque part. Je trouve qu'il y a beaucoup de rappels au premier, celui de 68. Il y a plein de d'images en fait qui me rappellent le film, la chasse des humains, la grotte et la plage lors de la troisième, dans le deuxième et troisième acte. En fait, on se retrouve par rapport à la première trilogie qui était en fait San Francisco qui diminue au fur et à mesure. Là, on est vraiment dans la planète des singes. Et visuellement, je trouve qu'on est dans une planète, enfin dans une terre complètement à l'abandon, où l'humanité, où la nature en fait a repris ses droits sur ce qui reste des constructions humaines. Et je trouve que visuellement, le film est très beau pour ça. L'entame du film aussi permet de montrer comment la société simiesque a évolué. Enfin, une partie, parce qu'on va, c'est aussi l'intérêt du film, c'est que il n'y a pas du tout de manichéisme et qu'il y a plusieurs sociétés qui sont mises en place, à la fois chez les singes comme chez les hommes, et il n'y a pas fatalement de bon ou mauvais, sauf peut-être le personnage de Noah, qui lui est donc le héros. Mais on n'est pas du tout dans le Messie comme pouvait l'être César. C'est plutôt un gars de tous les jours qui va se retrouver en fait dans une aventure qu'il dépasse et où il va être obligé de se dépasser lui-même. Mais pour revenir, en fait, l'autre aspect qui m'a plu aussi dans le film, c'est qu'on parlait beaucoup de les premiers films, c'était plutôt tout ce qui était politique et sociaux. La seconde trilogie, on était plutôt dans le bioéthique et comment gérer en fait l'affrontement entre deux sociétés. Là, je trouve qu'il y a un sous-texte théologique très intéressant, justement, de par le message de César, et comment, en fait, on peut, à partir d'un prophète, lui faire dire ce qu'on veut en fonction de comment on veut manipuler la société, soit à ses fins, soit en pensant avoir la vérité toute faite. Je trouve que cette décennie est justement le religieux prend de plus en plus une part importante, le film et que la future saga se penche là-dessus, je trouve ça passionnant.
Très bien.
Effectivement, tout à fait. C'est vrai que le message théologique, il est très très important, je trouve, dans le film. D'ailleurs, César, même s'il est donc il est mort, il n'est pas dans le film. On parle énormément de César très souvent, et il y a effectivement plusieurs visions qui s'opposent. On a notamment un moment dans le film un personnage, c'est assez intéressant. Alors nous spectateurs qui avons vu les derniers films, on sait que ce qu'il dit lui est juste, mais en fait il se présente comme celui qui détient la vraie vérité sur le message de César. En soi. Les autres singes, ils peuvent le croire, mais rien ne dit que c'est la vérité. Nous, spectateurs, on sait que ce personnage-là, effectivement, dira la vérité, contrairement à d'autres personnages. Mais c'est assez intéressant, effectivement, les différentes visions du message de César, 300 ans après, qui sont véhiculées.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et vraiment c'était je souscris à tout ce qui a été dit qui était excellent. Ce qui est intéressant, c'est que on est ici face à une esthétique post-apo, et en fait ces dernières années elle était plutôt de type dystopique, et là en fait effectivement il y a ce retour de la nature est esthétiquement très beau, et on n'est pas du tout en train de nous présenter cet univers comme un univers dégradé, comme un univers dans lequel on se sentirait mal à l'aise, qui est d'ailleurs un peu à l'opposé du film de 1968, où dans le film de 1968 il y a une zone interdite. On montre à quel point finalement l'humanité, avec l'holocauste nucléaire, a détruit la planète, a fait en sorte finalement presque de détruire toute forme de vie et de beauté. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y a toute une réflexion d'ailleurs très intéressante qui consiste à savoir si finalement c'est une mauvaise chose que l'humanité ait perdu en un sens le contrôle de la planète, ne soit plus véritablement l'espèce dominante. Je suis d'accord également avec ce qui a été dit sur l'absence de manichéisme, et je trouve que c'est un film qui a une vraie profondeur de ce point de vue-là. Surtout qu'à un moment donné dans le film, sans entrer bien sûr dans les détails pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et les dernières minutes du film, et même un peu avant, nous montrent qu'en fait, on est non pas dans un univers noir et blanc, mais dans un univers gris en réalité, où il est très difficile de déterminer véritablement qui l'on doit soutenir émotionnellement en tant que spectateur. Et puis, je trouve que c'est un film aussi, d'ailleurs, dans son dénouement, qui ouvre des perspectives intéressantes. C'est pour ça que je me réjouis, d'ailleurs, qu'il fonctionne aussi bien actuellement en salle, parce que je suis assez curieux de voir ce que pourrait donner une suite, justement, du Nouveau Royaume.
Qui n'est pas le dernier. Aussi...
voilà, c'est ça. Voilà, visiblement, vous souhaitiez que ce soit le cas, mais je pense qu'on
moi,
aura
la suite. Moi, je souhaite rien.
Et puis aussi, d'un point de vue visuel, en dehors des paysages qui sont absolument magnifiques, il y a eu beaucoup d'ailleurs une grande partie du film a été tournée en décor réel et ça se sent et c'est important. Il y a également, je trouve, un travail magnifique qui a été fait sur la motion capture. C'était déjà un travail très satisfaisant, je trouve, avec la trilogie des années 2010. Et là, par moments, c'est assez bluffant, je trouve, dans les expressions. Il y a quand même beaucoup de gros plans sur les singes. Et ce sont en plus les personnages qui dominent ce film, sachant que dans la trilogie des années 2010, on avait quand même encore beaucoup d'apparitions d'êtres humains. Là, ils n'ont pas totalement disparu, mais on ne peut pas dire que ce soit les personnages qu'on voit le plus à l'écran. Et je trouve que c'est assez bluffant de ce point de vue-là. Et puis, je pense qu'aussi, c'est important de recontextualiser ce film. On a eu pendant une dizaine d'années la domination du Marvel Cinematic Universe, alors avec des bonnes choses, hein, il ne s'agit pas d'être caricatural et de dire que tous ces films étaient mauvais. Moi, il y a des films que j'ai beaucoup appréciés, mais on a parfois été confronté à des films, des blockbusters qui n'étaient pas toujours peut-être pleinement satisfaisants en ce qui concerne les messages qui pouvaient nous être transmis, les réflexions qu'on pouvait développer à la fin de ces films. Et là, je trouve qu'on est quand même... indépendamment d'ailleurs du Marvel Cinematographic Universe, parce qu'on pourrait dire la même chose d'autres gros blockbusters, on est quand même face à un film intelligent, avec une dimension politique. Et puis, ce qui a été dit qui est très juste, il y a toute cette question de l'héritage, du messianisme, de la manière également dont un dirigeant politique peut plus ou moins marquer l'histoire, parce que César, finalement, qui est cette figure si importante des trois films des années 2010, eh bien, il a essayé de transmettre un message, un enseignement, et on voit aussi à quel point on est finalement limité face à l'écoulement du temps, même quand on est un grand leader politique, parce que une partie de son message est en fait dévoyée, et ceux qui se disent ses disciples ou ses apôtres ne le sont pas véritablement dans ce nouveau film.
On sent parfaitement votre emballement dans ce dernier opus. Est-ce qu'il y a quand même des petits points négatifs que vous avez trouvés en regardant le film, Renaud, peut-être, si tu veux? Alors, réactive au micro, s'il te plaît, Renaud.
Pardon, merci. Effectivement. Moi, je voudrais revenir rapidement sur les effets visuels. Alors, je trouve que le film est magnifique. Effectivement, visuellement, il est très, très beau. Il est largement plus beau que beaucoup de films qu'on a eu ces dernières années, notamment, effectivement, les Marvel qui sont un petit peu en train de perdre en qualité visuelle, je trouve. Mais par contre, on utilise dans ce film, malgré tout, énormément de CGI, notamment sur les singes. Alors, ça donne effectivement plus de détails et plus d'expressivité, mais j'avoue personnellement avoir une préférence pour le côté beaucoup plus réaliste, un peu plus froid quelque part, mais beaucoup plus réaliste qu'on avait dans les films précédents, dans les trois films de 2010, notamment dans Supremacy, qui pour moi, visuellement, Supremacy, c'est un film qui, le plus possible, a essayé d'utiliser des effets pratiques, le moins de CGI possible. Il y en a évidemment, mais ils ont essayé d'en utiliser le moins possible, et je trouve que la patte visuelle, notamment de Supremacy, elle est absolument incroyable. Et pour moi, elle est au-dessus de ce nouveau royaume. Après, attention, voilà, encore une fois, le film est magnifique. Et effectivement, les singes sont quand même malgré tout très expressifs. Et surtout, sur les décors, effectivement, qui sont en plus, effectivement, plus post-apocalyptiques, je trouve que les décors sont absolument magnifiques et très bien travaillés.
Franck, tu veux rajouter quelque chose ?
Sur les défauts, j'ai pas grand chose à dire, sauf peut-être l'actrice qui joue Mae, J'ai trouvé bonne, mais je pense qu'elle manquait un peu de subtilité, en fait, j'allais dire.
Très bien. Nicolas, mais, je te laisse terminer.
Par contre, je voulais rajouter un point, mais qui est pour le coup plutôt positif. C'était sur les aspects thématiques. Il y a aussi un sujet, moi, qui m'a frappé. C'est aussi tout c'est qui n'y avait pas d'ailleurs dans les précédents opus, quel qu'il soit, c'était l'aspect de sur l'esclavage et j'ai trouvé pareil cette thématique assez assez innovante dans la saga.
Concernant les défauts, ben moi c'est plutôt un film que j'ai aimé dans l'ensemble. Hein, donc, alors si vraiment on veut chercher un peu la petite bête
et
et sans spoiler, peut-être que l'antagoniste principal, Proximus, qui est un personnage intéressant, je vais pas en dire plus parce que sinon je dévoilerai des éléments de l'intrigue. J'aurais peut-être souhaité qu'il intervienne un petit peu plus tôt dans le film parce que je pense que il aurait pu être davantage exploité. Et puis ensuite, mais ça, est-ce que c'est vraiment un reproche que l'on peut faire, le parcours du personnage principal, Noah, bah, c'est un peu le parcours typique du héros. Ça réfère justement à ce qu'écrivait Joseph Campbell avec le héros aux mille visages et ce qu'il a appelé ensuite le monomythe. On a un petit peu l'impression de suivre, même s'il n'a pas de super pouvoir, un nouveau Luke Skywalker qui est un peu obligé de partir à l'aventure. Voilà, donc, mais globalement, moi j'ai trouvé que c'était un film de qualité qui était assez solide. Et les critiques qui ont pu être faites, que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, notamment sur le traitement des humains, me semblent quand même assez injustifiées. Sans entrer dans le détail, il faut peut-être rappeler juste une chose, c'est que bien sûr, à la fin du troisième film, on montre que le virus a muté, que les êtres humains semblent maintenant dénués de la capacité de s'exprimer. Mais il ne faut pas oublier qu'un virus peut bien sûr affecter globalement une population, mais qu'il y a toujours des personnes qui ne vont pas justement souffrir de ce virus-là. Et donc, que l'on puisse trouver des êtres humains qui soient différents dans ce film, qui ne sont pas tous sur le même modèle, bah, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je ne pense pas que ce soit une facilité scénaristique, parce que d'un point de vue purement scientifique, il me semble que c'est plutôt réaliste que tous les humains ne soient pas logés à la même enseigne par rapport à ce virus.
Et puis d'ailleurs, ça a été déjà vu dans d'autres œuvres... d'autres œuvres de la pop culture, je pense notamment au fléau de Stephen King, où 99% de la population est tuée, mais il reste un pourcentage qui a justement trouvé des anticorps contre le virus.
Oui.
Très bien. Donc, succès en salle, ça, on en a parlé. Vous voulez donner un petit peu plus de détails sur les chiffres ou non?
Il a fait 58,5 millions de dollars aux États-Unis. Je crois qu'il est à 130 au niveau mondial. Et en France, il a taquiné le million. Il est à 933 000 spectateurs. Alors, c'est un bon chiffre, hein, mais les précédents avaient tous dépassé le million.
Après, les précédents étaient sortis en été. C'est la première fois qu'un film sort au mois de mai.
Tout à fait. Et puis là, il avait la concurrence d'un film français qui marche très bien, mais je ne me rappelle plus du tout le titre, qui est arrivé premier cette semaine, alors qu'il était déjà en deuxième semaine.
Le film d'Artus, oui, j'ai perdu le nom. Mais, oui,
un petit truc en plus, non, c'est pas ça?
Oui, je crois que c'est ça.
Un petit truc en plus, exactement.
Donc voilà. Donc, oui, c'est plutôt des bons chiffres. Voilà, maintenant, il faut voir sur la durée. Mais,
et là-dessus, on peut d'ailleurs saluer la très belle opération promo qui s'est déroulée en amont de la sortie de cinéma, avec les images des singes à cheval sur les plages californiennes, mais aussi à New York et au San Francisco, ou même à la première du film. Ça, c'était quand même assez incroyable.
C'est tout simple, mais je trouve l'idée excellente. Ouais,
exactement. Exactement.
En tout cas, pour Disney, parce que c'est quand même un succès pour Disney, parce que Disney a repris la franchise après une année.
Il fait mes transitions, c'est génial.
Voilà, après une année horrible l'année dernière, où quasiment tous leurs films se sont plantés au cinéma, comme pour Marvel, comme pour Star Wars, les fans attaquent Disney parce qu'en disant que Disney fait toujours des mauvaises choses, sans parler des accusations de wokisme à la volo. Donc voilà, Disney était plutôt dans une mauvaise passe cinématographique. Ben là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ben, les fans, les critiques et le public en général a aimé le film. C'est un succès. Donc voilà, c'est comme quoi c'est la deuxième franchise tirée de 20th Century Fox. Et j'ai même envie de dire la troisième parce que Predator avec Prey aussi avait été bien accueilli. Donc comme quoi Disney est capable de faire des blockbusters adultes de qualité et qui plaisent. On verra Alien, Romulus cet été s'il sera aussi bien accueilli, mais voilà quoi.
Je pense que ce qui a si fait que le film est un succès et qu'il est plutôt bien aimé, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut souvent avoir peur quand c'est un nouveau studio qui prend en main une franchise. C'est que le film, bon, c'est toujours la même équipe de production, et il est vraiment fidèle à la vision des trois derniers films. On est vraiment sur une suite, une vraie suite, qui garde vraiment les mêmes idées, la même mythologie. On n'est pas parti sur autre chose, et je pense que c'est ce qui a plu également. Et la fidélité au film précédent.
C'est vrai, oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a un autre élément, moi, c'est un peu l'une des thèses que je développe dans mon essai, c'est que la planète des singes, je l'ai qualifiée de franchise caméléon en utilisant un autre animal que le singe, justement, pour la qualifier, de franchise caméléon, parce que c'est une franchise qui a beaucoup évolué au fil du temps, même si elle conserve donc cet ADN politique qui est présent à peu près dans tous les films, à plus ou moins grande échelle. Mais... le deuxième film de la franchise, Le secret de la planète des singes, est très sombre, a une dimension nihiliste. Puis on passe à un troisième film qui est plus familial, qui a une dimension comique, satirique. Un quatrième film qui est très dur, etc. Et donc, finalement, je pense que c'est une franchise qui, tout en étant très ancienne, est en un sens un peu moins codifiée que certaines autres franchises. Je pense notamment à Star Wars, où il y a un certain nombre d'attendus avec des fans qui sont justement très exigeants, qui estiment parfois que... on va dénaturer Star Wars si on propose telle ou telle chose. Je l'ai encore lu récemment avec les bandes-annonces de The Acolyte, où certains disaient « mais c'est pas du Star Wars », etc. On ne va pas en parler peut-être ici dans le détail. Mais voilà, la Planète des Singes est peut-être une franchise qui semble, en tous les cas au grand public, moins codifiée, ayant moins un cahier des charges à suivre, et ça peut l'aider. Et moi, j'espère vraiment que Disney, voyant que le film marche bien, non seulement va lancer une suite, mais je l'évoque comme possibilité pour la suite de la franchise. Moi, je rêve que Disney, pour sa plateforme Disney+, lance un jour une série live ambitieuse sur la planète des singes. Ça se trouve que ce sera un très bon moyen d'alimenter Disney+. Et en plus, la planète des singes, c'est pas une franchise de pop culture qui est la plus coûteuse à produire. Là, le dernier film, il a coûté un certain budget, mais on est très loin d'autres films à grand spectacle. Donc, ça pourrait être très intéressant d'avoir enfin une série de la planète des singes qui soit satisfaisante, sachant que ça n'a pas été le cas dans les années 70.
Il a coûté 160 millions de dollars et je crois qu'il a coûté un peu moins que les précédents de mémoire. Mais, donc oui, il y a une grande chance qu'il soit rentable. Quoi.
Oui. Et dans le chat, on a XP78 qui dit qu'ils ont annoncé au moins 4 autres films.
Bah j'ai lu une interview que, alors à la base, ils pensaient à une trilogie, mais je ne sais plus si c'est le producteur ou le scénariste qui disait qu'ils avaient... des traitements pour faire 9 films, en fait. Oui. Donc, ils ont des idées. Ils ont des idées
on
pour
leur
la
fait
suite.
Confiance.
Oui, et les 4 films en plus, ça vient du fait que c'était un peu une référence aussi pour les fans de la saga qui savent que finalement, la franchise à l'origine était connue pour ces 5 films. Hein, c'était pas une trilogie. Donc, il y a aussi un petit clin d'œil aux fans de la première heure en leur montrant qu'on va peut-être avoir un nombre de films équivalent à ceux des années 70. Mmh.
Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses ? Où nous concluons ce live.
Moi, si j'avais une chose à ajouter, c'est d'inciter les personnes qui ont pu nous écouter ce soir ou qui nous écouteront ensuite en replay à aller lire le roman de Pierre Boulle, parce que c'est vraiment un texte très intéressant. On n'a pas besoin d'ailleurs d'être un immense fan de science-fiction pour apprécier ce texte, hein, parce que c'est pas de la hard SF, et il y a plein de choses intéressantes qui sont dites sur notre monde, pas simplement sur le monde dans lequel vivait Pierre Boulle. Il y a des réflexions intéressantes sur notre rapport à la nature, sur l'organisation des sociétés, sur la question de l'évolution, et puis également de ne pas hésiter aussi, et là pour ceux qui sont abonnés à Disney+, aller voir aussi les anciens films, parce que c'est pas les films qui sont le plus connus du grand public et notamment des plus jeunes générations, et même si ces films bien sûr ont des défauts, ils ont tous quand même quelque chose d'intéressant à nous dire, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller à leur découverte.
Ah oui, je confirme, moi qui... J'ai été élevé avec les 5 premiers. Je conseille vraiment le premier, le troisième et le quatrième. Quatrième, d'ailleurs, si vous pouvez, alors il est disponible en Blu-ray. Je ne crois pas que sur Disney+, ils sont bonus. Mais si vous trouvez le Blu-ray du quatrième, regardez-le dans ses deux versions. Et vous verrez, ce n'est pas du tout le même discours.
C'est vrai.
Très bien. Très bien, eh ben, merci beaucoup, c'était des échanges très très passionnants. Je vous propose qu'on s'arrête là.
Déjà, moi, je voulais remercier Nicolas parce que oui. Ça a été vraiment un débat passionnant.
Ben, merci à vous, j'étais ravi de revenir parler avec tous les membres de Chronique Disney. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer votre travail, parce que tout en étant essayiste et spécialiste de pop culture, je suis aussi un fan. Il y a des univers sur lesquels je n'écris pas spécialement, mais qui m'intéressent beaucoup. Et je trouve que c'est toujours fascinant de voir ce que Chronique Disney nous propose au quotidien, sur les réseaux sociaux, sur le site également. C'est toujours de grande qualité et c'est une très belle source d'informations quand, comme moi, on est fan de ces univers.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci Franck et Renaud de nous avoir fait part de votre fan attitude sur la planète des singes. Ça change un peu de Star Wars. Hein. On y en reviendra avec vous prochainement sur Star Wars, c'est promis. Nicolas Allard, merci énormément de votre participation à ce live. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre-là qui est excellent, qui était vraiment ma bible pour préparer ce live-là parce que je suis novice en fait sur le sujet. Donc qui s'intitule La planète des singes, du roman aux écrans La fabuleuse histoire. Il est sorti au mois d'avril aux éditions Pix & Love. Passionnant à lire, je vous l'ai déjà dit, très fluide, très intéressant, enfin, très facile à lire, et puis ça donne énormément de envie justement d'en savoir plus sur la saga et puis sur le livre aussi. Je remercie les personnes qui ont été impliquées pour la préparation de ce live, en particulier Olivier qui nous a assuré toute la régie et c'était génial, merci à toi. Fabien qui nous avait donné un gros coup de main sur les visuels. Je remercie aussi celui qui m'a coaché pour la préparation de ce live, il se reconnaîtra. Donc on va passer à la Galaxie Chronique Disney pour terminer. Traditionnellement. Chronique Disney est présent sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur Facebook, sur Threads, sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous nos replays vidéo de nos lives sur YouTube. Vous pouvez aussi les retrouver en audio sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom, par le biais de Ocha. Nos playlists sont disponibles sur Deezer et Spotify. Vous nous avez bien sûr suivi en direct sur Twitch. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont participé dans le live. J'ai lu vos échanges, c'était très intéressant. Merci à vous d'avoir échangé là-dessus. Nous sommes également présents sur Letterboxd où vous verrez que toute la saga La planète des singes est listée sur Letterboxd. Donc, cochez quand vous les aurez vus. Évidemment, nous sommes présents sur X. Chronique Disney, le navire amiral, c'est le site chroniquedisney.fr. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos fiches, dont celle de La planète des singes quand elles seront écrites. Petit appel du pied, hein, si vous êtes fan et que vous avez envie d'écrire, y a de quoi faire. Et puis Chronique Disney est aussi présent sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, dans lequel vous n'hésitez pas à vous inscrire ou alors aller débattre, interagir sur des sujets comme la planète des singes ou autre chose. Merci encore à mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Bonne soirée.